Bonjour, bienvenue dans le bout du monde. Les tout premiers sons, la toute première impression, ici on est à Aix-en-Provence. Et c'est là que commence notre voyage et notre découverte en pays de Calisson. Le soleil brille, le ciel est bleu. Hâte de découvrir, il y a des lavandes évidemment qui bordent les quais, les voies qui nous font sortir du train. Et voilà, c'est parti. En route pour la découverte de cette confiserie, typiquement provençale, ça va être un chouette voyage.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Une fois qu'on commence par retourner à la destination de Madagascar, le 6 rond et gare est à votre disposition, côté pavillon A, côté porte sud. Au niveau moins de la gare, si vous avez la vie à François, vous êtes en réflexe à 10 ans.
Bonjour. Alors normalement Alexis va nous rejoindre, mais je pense que c'est lui. C'est lui qui m'entend. C'est un grand classique. J'étais en train de dire c'était un grand classique.
Non, mais texto.
Bonjour.
Bonjour, ça va ?
Dans cette aventure, mon guide, c'est Alexis Bertuca du Roi René. Grand sourire, voix franche, claire, son accent trahit d'emblée son origine provençale, la terre, les oliviers, la lavande.
Merci, ouais, ça va bien, ouais, très bien. Nickel. Beau soleil, normal.
Normal.
Normal, normal.
Alors ce Calisson qui nous fait venir ici, c'est une douceur d'Aix-en-Provence fabriquée artisanalement depuis plus de 5 siècles. Une pâte onctueuse, fondante, le goût de l'amande, la gourmandise du melon confit, un soupçon de granulosité de la texture et cette touche d'agrumes couchée sur une feuille de papier azyme et recouvert de glace royale. Une bouchée en forme de sourire, en souvenir de celui esquissé par une reine dont on disait qu'elle ne souriait jamais, raconte le doyen des calissonniers.
Jean-Pierre Brûly, calissonnier, comme aurait dit Fernand Reynaud, je suis rien du tout, mais je suis juste calissonnier, né à Aix, et toute ma vie consacrée au calisson, voilà.
Jeanne, l'épouse du roi René.
Jeanne de Laval, cette pauvre femme, elle était malade, et elle ne souriait jamais. Et alors là, il y a la fameuse légende, à mon avis, qui est fabuleuse, c'est son pâtissier, pour la triste reine, amoureux de cette reine, et a dit, il faut que je fasse quelque chose pour ce mariage. Il a inventé le calisson. Et donc, on sert des calissons. Donc, vous aviez tous les exois qui étaient montés. Parce que, donc, un mariage du roi René, on monte les officiels. Donc, la reine goûte ce petit gâteau, et elle sourit. Tout le monde séché, mais elle n'a jamais le sourit. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Et il y a un Provençal qui aime bien galéger, qui dit « Oh, c'est un... »
Petit câlin.
C'est un petit câlin. Et alors, évidemment, tout le monde « Ah, ouais !» Et de là est née la légende de l'appellation du calisson pour le mariage du roi René.
Un sourire pour un calisson. Ces calissons que l'on retrouve sur les tables des fêtes parmi les 13 desserts avec les oranges, les nougats, les fruits secs et les frais, les gibassiers et autres pompes à huile, mais ça, c'est une autre histoire. Vous vous souvenez, le cœur du calisson est fait d'amandes. Ce fruit en forme de losange pousse sur les pourtours de la Méditerranée et dans les vergers replantés il y a 20 ans, au nord d'Aix-en-Provence, sur le plateau de Valensole, des plateaux couleur lavande l'été, balayés par les vents. Au loin, on aperçoit les contreforts des Alpes, les flancs pelés donnent l'impression qu'ils sont enneigés.
Je suis Jean-Pierre Jobert, agriculteur à Valensole. J'ai 64 ans et passionné par ce que je fais.
C'est une histoire de famille, la lavande et les amandes.
C'est ça, c'est ça, c'est ça.
Votre père, votre grand-père peut-être avait
grand-père, déjà... oui, on avait déjà la ferme. Nous, on est ici depuis 300 ans sur Valensole.
Comme ça.
Oui, on ne sait plus. On a recherché, mais après, on s'est arrêté à 300 ans, c'est déjà pas mal. Eh bien, donc mon grand-père avait déjà une ferme, petite, puis après, il a fini par avoir, je crois, 20 ou 30 hectares sur la fin. Mon père en avait un petit peu acheté, puis moi et mon frère, on a vraiment agrandi la surface de culture. On faisait, on va dire, 2 récoltes et demie tous les 5 ans. Il y avait une année ou deux, parce qu'il faisait beaucoup plus froid. Et puis, c'était des amandiers différents. C'était une qualité différente qui fleurissait quasiment au mois de janvier quelquefois. Moi, une année, je me souviens, j'étais tout petit, le 22 janvier, j'avais pris mon vélo, parce qu'on vivait dans la ferme, donc je prenais le vélo, et mon plaisir, c'était d'aller chercher les premières fleurs. Et une année, je me souviens, je devais avoir 6-7 ans, j'avais ramené des fleurs à ma maman, c'était un jeudi ou un dimanche, je ne sais plus, enfin bon. Et j'avais porté quelques fleurs, c'était le 22 janvier. Autant vous dire que cette année-là, zéro récolte, hein, parce que vous fleurissez en janvier,
c'est gel
automatique.
C'est trop exposé.
Donc cet amandier qui était planté ça et là, il a été arraché des années 50 sur le plateau de Valensole, il est arrivé le lavandin, et là ça a été la grosse industrie qui a fait qu'on a arraché quasiment tous les amandiers. D'accord. Alors on garde quelques amandiers, vous allez rigoler, ce sont des amandiers qui nous servent de point de limite des parcelles. Donc on les conserve, ils ont 60.
C'est la barrière chic de
ça.
Provence.
C'est ça, et on peut s'y mettre à l'abri des fois, à l'abri du soleil, ouais. Pour boire un bon verre frais, et ça fait du bien l'été.
Ouais.
Mais c'est les seuls amandiers qui restent quasiment, oui. Là maintenant, c'est reparti, c'est sérieux, les amandiers sont quand même bien là où ils sont, on est sur un plateau qui est à 700 mètres d'altitude. L'amandier, ce n'est pas des grandes performances que l'on fait. Nous, lorsqu'on fait 600 kg d'hectare, on devrait faire 1500 ou 3000, comme dans certains pays, mais nous, c'est 600, 800 maximum. Mais l'amande, après, c'est un fruit quand même haut de gamme, on peut dire, parce que, en étant à 700 mètres d'altitude, à une terre assez aride, on a un fruit qui est quand même. Il n'est pas sous perfusion, celui-là. Ce n'est pas de la farine que vous mangez, c'est un fruit assez exceptionnel. Voilà pourquoi on a moins de rendement.
Il
est concentré, puis vous savez, vous êtes à 700 mètres d'altitude, il fait froid, il y a des intempéries, mais il n'y a pas d'humidité comme dans des vallées où il y a de la bonne terre et tout, l'amande le grossit presque, on va dire, sans souffrir. Il faut qu'il souffre un peu ce fruit. L'arbre, il ne faut pas qu'il souffre d'humidité, mais s'il souffre un petit peu de nourriture, ce n'est pas plus mal.
Ce stress, en fait.
C'est le stress. C'est un arbre que si vous le choyez trop, il ne vous fera pas du fruit, il fera beaucoup de bois. Et après, il faudra le tailler. Donc, il faut maintenir une espèce d'équilibre, là, qui fait que l'amande, c'est bizarre. Mais souvent, je crois, les arbres, d'ailleurs, genre abricots, pêchers et tout, s'il souffre un petit peu, il vous fait moins de fruits, mais plus sucré, plus concentré, quoi.
Et cette amande, alors, si vous deviez la décrire?
Mais la coque, regardez, elle est pas très grosse. Elle est bien ronde, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, il y a une amande charnue. L'amande charnue, ça veut dire que l'amande est épaisse. Elle a la peau assez tendue, c'est pas flétri. Ça peut arriver, attention, une année où il y a un loupé quelque part. Mais après, cette amande, moi je dis toujours, c'est un fruit d'une terre aride. Donc ça donne bien l'image de l'amande.
C'est que c'est comme s'il y avait plein de petites couches en fait qui se formaient pour créer cette enveloppe.
Vous voyez ce que c'est charnu,
ouais,
elle est épaisse
charnue.
Et tout.
En fait, moi je dirais qu'elle est ridée.
Et bien, il faut que ce soit un petit peu ridée, mais pas trop.
C'est ça. Ouais. Et alors ça fait comme une petite peau qui a des petits poils.
Ça, c'est une amande qui n'est pas sous perfusion, avec des engrais chimiques comme dans certains pays, que je ne dirai pas le nom. C'est une amande qui n'est pas uniforme, et ça c'est très bien.
Et elle a quel goût cette amande?
C'est la question. C'est la question récurrente. Ça. Là-bas il y a la Méditerranée, à 50 km. Là il y a les Alpes, et bien l'amande elle a le goût de la Provence. Je dis ça.
Elle a mangé des amandes?
Tu pourrais en casser une.
À la main comme ça?
À la main.
Oui,
faut casser les dents.
Ah.
Goûtez l'amande.
Ah, d'abord il faut que je fasse comme ça.
Mangez l'amande, vous allez voir. Bon, après je vais tricher aussi. Alors quel goût elle a?
Elle a une petite amertume,
ah.
Mais elle est douce. Parce qu'on pourrait s'attendre, parce qu'on est habitué à manger des amandes, à ce que ce soit franchement amer. Mais en fait non.
Non, là, puis là, elle est sèche, là, c'est ça. Si vous mangez une amande il y a 15 jours plus tôt, c'est un goût différent. Là, elle est nickel, elle est un peu humide, c'est pour ça qu'elle ne casse pas vraiment.
Ouais.
Mais c'est une amande parfaite. Vous voyez là, comme c'est beau, l'intérieur. Elle est large. Hein.
Oui, elle est large.
C'est la largeur qu'il faut regarder à une amande.
D'accord. Ouais, qu'elle soit bien charnue, en fait.
C'est ça.
Et cette amande, donc, vous la faites sécher chez vous, sur votre exploitation?
Alors, on fait, une fois que c'est ramassé, pas tout le monde fait ça quand même. Hein.
Donc elle est déjà détachée de sa cosse. Je ne sais pas comment vous l'appelez, la cosse verte.
L'écale.
L'écale, d'accord. Voilà. Donc elle est détachée.
Sur l'arbre, on attend.
Quand elle est vibrée, elle tombe.
Voilà. Déjà, sur l'arbre, on attend que l'écale soit sèche. Après, c'est ramassé. L'écale tombe. On a une machine spray qui sépare les feuilles, l'écale. Il nous reste uniquement la coque d'amande. Après, c'est transporté dans un très grand hangar de 1800 m². Là, c'est étalé sur 30 à 40 cm pendant 15 jours, voire 3 semaines. On les rentre à peu près à 16 à 18% d'humidité. Une fois que c'est à 13% d'humidité, on l'amène au cassoir. Là, on casse.
Avec des machines?
Avec des machines, tout avec des machines. C'est chargé par des chargeuses, là, des manitou avec le gros godet. C'est mis dans des caissons, et là, on amène ça au cassoir. Et au cassoir, on commence à casser. Là, on est à 13% d'humidité, donc ça évite beaucoup de brisures. Et une fois que c'est cassé, c'est mis en frigo et déshumidifié. C'est une machine qui enlève l'humidité. Et là, on la descend entre 6 et 8% d'humidité. À partir de là, elle peut être vendue. On a une traçabilité parfaite parce qu'on a planté les arbres, on les a cultivés, on les suit tout au long de l'année. Et en plus, on les casse. Et en plus, on les conditionne. Et on les vend directement aux clients.
De A à Z.
De A à Z.
Du début à la fin, c'est vous.
C'est ça. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, s'il y a un problème, on vient nous voir et on règle le problème.
Oui. Pour ce qui est du calisson, combien il faut en termes de poids d'amande pour faire
je
ne
sais pas, lui.
En plus, on ne fait pas comme ça, mais on dirait que. Non, il y a 33% d'amandes dans le poids d'un calisson.
Ouais. Bah, en même temps, vu le nombre de calissonniers, il fallait bien plein d'amandes pour pouvoir les fournir.
C'était la capitale, Aix.
La capitale de l'amande?
Ah, ouais. Autant Marseille, c'était le blé, tout ça, sur le port pour les pâtes panzani et tout. Mais là, Aix, c'était la capitale pour les amandes. Une fois cassées, ça arrivait tout là-bas.
D'accord.
Non, après...
Et du coup, ils étaient où ces amandiers?
Ah ben, dans toute la région. Beaucoup sur Valensole. Très peu dans les vallées parce que ça gèle, un amandier. Mais.
Et près de la Sainte-Victoire et tout ça, non?
Il y en avait, oui, un petit peu, l'Ambès, tout ça, là. Tous ces plateaux, là. Mm-hmm. C'est des plateaux, quand même. Hein. Un amandier, il ne pousse pas dans une vallée parce qu'une vallée, ça gèle au printemps. Donc, c'est toujours dans des petits plateaux ventilés et tout.
Le vent.
Toujours c'est... le vent.
C'est trop beau. Hein.
Mais l'Ambès, tous ces quartiers de Saint-Cana, tout ça, il y a des amandiers. D'ailleurs, il y en a encore. Hein.
Il va se faire mal.
C'est Laurent et Ferragnès ici?
Ouais.
Elles sont belles quand même. Hein.
Ah oui, ah non, mais celles qui sont restées, elles sont belles. Il n'y a pas de problème. Mm. Ouais, c'est charnu, hein, c'est beau.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Et est-ce qu'on distingue du coup l'amande en fonction des deux espèces?
La Laurent est plus petite, la Ferragnès est plus grosse.
Donc ça serait plutôt Ferragnès alors?
C'est Ferragnès. La Lorraine, il y a des gens qui font des dragées, ils préfèrent la Lorraine. Elle est plus petite. Tu comprends?
Combien?
La Lorraine, tu dois la voir.
Il y a des arbres, toi, il va falloir qu'ils repassent. Non, mais ils n'ont pas vu de terre.
Le goût du monde. Clémence de Navy. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Sumatum. Dumatum. 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 Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. I only am eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky. I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden.
have eyes for you chante les flamingos dans le goût du monde. Nous sommes en Provence. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en voyage en terre de Calisson. Des amandes plein les poches. Nous prenons la route d'Apt au nord d'Aix-en-Provence, dans le Luberon. Apt, trois lettres pour le péché mignon des papes. Les fruits confits, brisures, lanières d'orange et de citron plongées dans le chocolat. Des cerises, billes rouges brillantes, les pastèques, les figues, l'angélique. Les bijoux des galettes des rois, la nature devenue bonbon chez les confiseurs d'Aptunion.
Je présente Lionel.
Bonjour.
Qui est le responsable de l'usine que nous allons visiter.
Bonjour. Là, ça sent les fruits confits.
Que les cerises.
Voilà. D'accord.
Allez-y. Alors, allez-y.
Là, c'est la zone.
C'était là le plus.
Là, ça sent bon.
C'était le plus tard possible.
Là, ça sent les panettones.
C'est voilà, vrai. Là, on est.
C'est fou, hein.
On sent plus, hein. Ah si, ça sent quand tu rentres. Ça sent les agrumes.
Si, c'est un étonne, là.
Lionel Péguissier. Je suis responsable de l'usine où se font tous les fruits confits, autres que la cerise, au sein d'Aptunion.
Là, on se trouve dans une pièce qui est assez étonnante, qui a plein de cuves. Certaines bouillonnent, en tout cas, il y a de la vapeur qui s'échappe. Où est-ce qu'on est, là?
Donc, dans le principe du confisage industriel, ça va être de blanchir les fruits, faire bouillir pour casser les cellules à l'intérieur pour que le sucre remplace l'eau qui est à l'intérieur du fruit.
C'est ça le principe de base de la fabrication d'un fruit confit ?
C'est ça. Donc pour ce faire, les bacs vont transiter dans des étuves pendant 11 jours et vont tous les jours être de plus en plus sucrés à l'aide d'un sirop concentré. Et le fruit sera prêt à tout au moins chez nous à être emballé, mais on aura atteint ce système de conservation qu'est le confisage. Et là, ce stade-là, le fruit peut rester plusieurs mois dans son sirop concentré. Ça fait partie d'une des méthodes de conservation que les papes voulaient toute l'année manger des fruits et ont sûrement fait développer cette invention que de conserver des fruits dans le sucre. La différence entre la confiture et le fruit confit, c'est que le déroulement est le même de mélanger des fruits dans le sucre, sauf que la confiture finit en morceaux. Alors que le fruit, on va tout faire pour en garder sa couleur, sa forme et sa saveur. Et pouvoir le présenter tout entier une fois qu'il sera égoutté de son sirop de confisage. Et la difficulté de notre métier, ça va être de travailler le fruit tout le temps d'une manière différente en fonction de sa maturité et de sa texture, de sa résistance au confisage.
On garde bien la forme du fruit et on monte tout doucement. Et chez Aptunion, on est spécialisé dans les fruits fragiles. Justement parce qu'on fait un confisage très lent en 11 jours et qu'on monte tout doucement pour pas stresser et pour pas abîmer la texture et la structure du fruit. Pour garder une cerise bien ronde à la fin, pour garder un abricot bien rond, pour garder une tranche d'ananas bien en forme de tranche d'ananas, un quartier de melon en forme de quartier de melon, etc. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'osmose, c'est-à-dire qu'on fait équilibrer le milieu extérieur, c'est-à-dire le sirop, avec le milieu intérieur du fruit. Et du coup, en l'équilibrant, le sucré du sirop va rentrer dans le fruit et l'eau du fruit va sortir pour qu'il y ait un équilibre entre le taux de sucre du sirop et le taux de sucre du fruit.
Vous êtes des magiciens, en fait. Ah, melon.
Melon.
C'est du melon épluché, coupé en quartier.
C'est ça, local, production de la région. Donc là, la première opération, ça va être de le rincer. Et une fois qu'il sera fini de rincer, on va le blanchir. On va injecter de la vapeur pour l'amener à ébullition et contrôler la fin de blanchie. En fait, il y a des petites quantités dans certaines couleurs qui sont trop petites pour être travaillées sur l'énorme usine. Donc ici, j'ai quand même 4, 5 chaînes de cerises confites.
D'accord.
Voilà à quoi ressemble la cerise avant d'être confite. C'est du bigarreau. Là, c'est sa couleur naturelle.
Ouais.
Et on va par la suite... C'est vrai?
Ouais.
On va par la suite la colorer si besoin, puisque là c'est sa couleur naturelle. Par contre là il y a un maître confiseur là, qui est pas loin de nous.
Bonjour.
Bonjour.
Donc Alphonse il est presque né dans cette usine et il a de l'expérience, il va pouvoir vous dire s'il y a des fruits qu'on ne peut pas confire. Est-ce que ça existe?
Ah oui, attendez 2 secondes que le chariot passe.
À mon connaissance, on confie toutes sortes de fruits. Il y a certains fruits exotiques, je pense, qu'on n'a pas essayé de confire. Mais vous dire qu'on ne peut pas le confire, on ne pourrait pas l'affirmer. Il faudrait faire des essais.
La grenade, par exemple.
Techniquement, la grenade serait compliquée à confire, mais on pourrait la confire avec une étape comme pour les fruits ronds de piquage. ou de gerçage, ça... en perçant la peau.
Et tout ce qui est mangue, ça se confie?
Ça peut se confier en cube.
En cube ou en tranche fine?
Pareil, en tranche, ouais.
Fruit de la passion.
Ouais, aussi, pareil. Aussi. Carambole aussi, on a essayé.
Carambole.
Des choses comme ça. Mais ça reste très très marginal pour nous, c'est pas des fruits locaux. Donc nous, on est quand même très axé sur les fruits locaux. Nous, nos fruits confits, c'est plutôt axé pâtisserie et fruits desserts.
Donc panettone, cake, ouais, galette des rois. On confie du fruit,
oui,
en Afrique.
Oui, en 1900, mon grand-père et arrière-grand-père à Madagascar confisaient des fruits. Ils en faisaient le commerce. Ouais. Alors bon, je ne sais pas quel empereur, mais j'ai toujours entendu dire dans la famille que c'est un hasard que je sois là. Hein. On tombe un peu dedans quand on est jeune, et puis par passion et par formation aussi. Et par, je pense que pour devenir un bon confiseur, il faut de l'expérience, il faut faire des tours de compteur, comme on dit. Je pense qu'il n'y a que ça. Il y a que ça.
Depuis les années 50, l'activité du bassin d'Apt étant presque exclusivement tournée sur le fruit confit, nombreuses familles ici, il y avait les parents, il y avait les enfants qui se mariaient avec la famille d'à côté. Et il y a encore ici, même pour Alphonse, il y a son frère.
On était 6 de la même famille à travailler dans le fruit confit. Voilà, il y a des familles où ils étaient une dizaine, les frères et sœurs, les petits.
Il restait des noms en face de ça. Nos usines qui s'appellent GR, qui résument les deux familles Grossi et Rastouille. Et un petit-fils, Rastouille, dirige l'usine de cerises. Donc voilà. Et son cousin est aussi confiseur Vergy-sur-Sorgue. En fait, il y a... Voilà, c'est de père en fils que ça se transmet.
C'est vrai qu'à 6 ans, je venais chercher ma mère dans les usines Piton. Quand je sortais de l'école, j'allais chercher ma mère. C'était un confiseur qui était centre-ville, qui fait partie du groupement Aptunion. Et à 6 ans, il y avait Monsieur Piton, Maurice, qui venait me chercher dans l'escalier tous les soirs. Et j'allais récupérer ma mère dans l'usine et je mangeais mon premier fruit confit. Et puis, ouais, puis tous les soirs, comme j'aimais ça, ben, j'allais chercher ma mère, mais pas pour chercher ma mère, ben, c'était pour manger le fruit confit.
Voilà. Et il avait quel goût? C'était quoi comme premier fruit confit?
C'était certainement figue, abricot, enfin, ce qu'on mettait dans des vanneries, puisqu'à l'époque on faisait beaucoup de vanneries. Mm. On a fait encore quand même pas mal.
Des vanneries pour Noël et les fêtes, en voilà. Cadeau.
Voilà.
Et voilà.
Bon,
c'est ça.
Non, non, ben, allez, tu maintenant.
Allez-y, je vous en prie. Bon, Lionel, vous expliquer tout ça.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps. Un maître confiseur, quoi.
On arrive sur la salle d'emballage des corbeilles. Voilà, des tranches d'ananas glacées. Donc, ça ne colle plus aux doigts.
Ouais.
Et en tant que dégustation, à table... Et puis dans l'emballage aussi, dans la corbeille.
Ça, c'est les clémentines.
Il y a un cœur à l'intérieur. Enfin, ça, quand tu croques.
Les sirops.
Exceptionnel.
Mmh. Donc, vous pouvez déguster.
On peut?
Oui.
Citron, trop bon.
Vas-y. Vas-y.
Qu'est-ce qui est le plus...
Mais moi, j'aime bien le citron. Tout est génial. C'est beau, hein?
Ouais, c'est hyper beau.
Vous avez goûté le citron?
Pas encore.
Ah, l'abricot?
Moi, je vais manger ça.
C'est excellent.
Ah, mais les saveurs, elles sont complètement préservées, même elles s'expriment davantage, j'ai presque envie de dire.
Et c'est bien ça, c'est ce que je vous dis au tout début. Il va falloir respecter la forme du fruit, la couleur du fruit, la texture, la saveur. Et ben voilà, c'est un peu tout notre savoir-faire, quoi. Hein.
Ben vous savez bien faire. Et les kumquats et tout ça, du coup, vous faites aussi les kumquats ou pas?
Non. Non.
Les textures sont incroyables sur la
caméra. Incroyable, je sais.
Ma tête paraît une. Vraiment l'écorce qui est là.
Non, mais il faut goûter citron, trop bon. On peut en goûter deux.
Le goût du citron encore en bouche, nous filons vers Aix-en-Provence, justement à la fabrique du roi René, l'un des 15 calissonniers encore en activité, 100 ans même cette année. Des histoires de famille, de générations travaillant ensemble, de grands-parents déjà artisans, des histoires de temps, meilleur ingrédient du monde pour laisser les amandes se développer sur les arbres, transformer le citron, l'orange et le melon en fruits confits pour un câlin, un calisson.
Où sommes-nous?
Nous sommes à la fabrique du roi René.
Et qui est située
sur la commune d'Aix-en-Provence. Vous êtes à 10 minutes du centre-ville, donc sur la route d'Avignon, en parallèle de l'ancien chemin de Paris, donc le chemin de Paris qui reliait Paris à Aix-en-Provence, qui était une ville de parlement. Et ce qui est beau, c'est que notre fabrique, elle est vraiment entre les deux.
Ouais.
Construite en pierre de Rogne, vous voyez que c'est pour ça, c'est une pierre blonde là, dorée, qui rappelle Aix. très écologique, donc c'est pire, ça isole très très bien le bâtiment. On va aller là à l'intérieur, donc dans les ateliers qui sont au rez-de-chaussée.
D'accord.
Et là-haut sur le toit, il y a 1200 panneaux solaires. Et forcément, des amandiers.
Et de la lavande.
Alors, du lavandin, ouais. Enfin, c'est une lavande, hein, mais c'est comme la lavande fine pousse en altitude.
Ouais.
Nous, ici, on est à 300 mètres d'altitude. Je prends mon badge. Voilà. On rentre.
Allez.
Allez, venez.
Il faut ouvrir ses narines, alors ? Non, c'est quand on sera là.
Et on va aller là ?
Là, ce sont les ateliers de fabrication du nougat et des calissons. On les aperçoit d'une fenêtre surplombant ces grandes salles.
Trop bien !
Voilà, c'est, l'objectif, c'est une vieille maison qui est centenaire, avec un produit qui est plus récentaire, puisqu'il a 500 ans, mais avec des conditions de travail du 21e siècle.
Ouais. Il faut mettre les surchaussures aussi ?
Oui.
Donc, blouse, Charlotte, rouge.
Charlotte et surchaussures.
Et surchaussures.
Et je prends une photo si vous voulez, vous pouvez la poster.
Toujours.
Parce que vous êtes bleu blanc rouge quand même.
Bleu blanc rouge. Ah, il va y avoir un sens, non ?
Pas du tout.
Pas du tout.
On va escorter ce monsieur jusqu'au nougat.
Jusqu'au nougat, je vous en prie.
Merci.
En fait, je suis à la porte entre deux ateliers. D'un côté, le nougat, de l'autre côté, le calisson. Et comment vous décrire cette odeur et ce parfum ? Le miel. Et donc je vois des gens. Donc il y a une dizaine de personnes qui travaillent sur les nougats. Donc le nougat, c'est une confiserie avec du miel et des amandes, et parfois des pistaches dedans aussi.
Bonjour.
Donc vous, c'est nougat ?
Oui,
c'est ça.
Les calissons d'abord, je viens vous voir ensuite. Ça sent trop bon en tout cas.
Là, c'est donc des crèmes de calisson que je travaille pas aujourd'hui, donc je ne vais pas vous montrer. C'est quand un calisson est pas parfait, son glaçage un peu cassé, pas assez de pâte ou quoi, on ne le jette pas, on le retravaille.
D'accord.
Et on le met, on fait une crème de calisson.
D'accord.
Des pépites pour les glaciers, de la crème de calisson pour les pâtissiers ou pour les chocolatiers. Là, c'est le stockage des matières premières.
Non, mais c'est rigolo parce que c'est vraiment pas le même parfum. Là, l'amande, elle est claire.
Et là-bas, on va sentir vraiment l'amande amère et les arômes d'amande amère. Alors là, ça sent pas, mais c'est les matières premières principales, donc de l'amande.
De l'amande.
De Provence et de Méditerranée. Celle-ci, c'est marqué dessus, Borges. Elle est espagnole. Et uniquement. Alors que le premier producteur d'amande au monde, c'est l'Amérique, les États-Unis.
Oui, 80%. La Californie.
Nous, on n'achète aucune amande américaine pour des raisons à la fois organoleptiques, enfin, au niveau du goût et aussi au niveau écologique. D'accord. Le fruit confit et les sucres. Ensuite, nous, on va rajouter de l'écorce d'orange confite, vous le verrez. Romain, qui est à la glace, salut. Glace royale, c'est le sucre glace et le blanc d'œuf qui est au-dessus du calisson.
Donc le glaçage, en fait, ouais. C'est ce qui fait que ça brille et que c'est joli.
Exactement.
Et que ça croque un petit
peu. Et que ça a fait cette première croque en bouche.
Croque, voilà. Ah, oh, ça sent trop bon. Ça ne veut rien dire.
Il faut imaginer que ici, il y a de l'amande sèche. Là. Melon confit. Amande humidifiée, écorce d'orange confite. Du coup, vous allez voir comment ça va se transformer, ça, en première pâte, qui est un broyat, auquel ensuite on va ajouter le sirop dessus. La grosse machine qui fait du bruit, c'est l'échaudeur. Ça humidifie l'amande, en fait. C'est une vis sans fin, là, qui attire. Il y a une vapeur qui va donner un peu d'humidité à l'amande, parce que dans l'amande, il y a de la matière grasse, une huile, et on veut qu'elle reste à l'intérieur. Si vous travaillez que sur de l'amande sèche, cette amande va avoir tendance cette huile à s'en aller. L'objectif, c'est qu'elle reste dans le plus possible dans la pâte et qu'elle s'incorpore aux fruits confits notamment.
C'est très beau, oui, ces amandes échaudées qui dégringolent dans les bacs. C'est beau et c'est bruyant aussi. Alors laissez-moi vous raconter un peu. Ces amandes sont ensuite versées dans le broyeur avec le melon que nous avons vu confit à Apt, melon de Cavaillon au sud d'Avignon qui régale toute la saison.
Nous, il arrive tel quel, en vrai quart de melon, magnifique. Et à l'intérieur, il y a du sucre, forcément, parce que c'est le conservateur naturel du calisson, c'est le sucre. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit. L'amande plus le fruit confit permet au produit de se conserver dans le temps.
Le tout versé dans un broyeur pour obtenir une première pâte, amande, fruits confits, le broyat, le cœur de notre calisson. Le broyat préparé est ensuite placé dans un grand pétrin. On va ajouter le sirop de sucre, l'huile essentielle d'amande amère. La pâte est pétrie et chauffée combien de temps ?
Ça dépend. Voilà.
C'est un savoir-faire.
C'est un savoir-faire.
Ça
fait partie de la... Et sur la recette, bien sûr, c'est plus simple de dire qu'un calisson, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers d'amande, un tiers de fruits confits, un tiers de sirop de sucre. C'est un poil plus complexe au niveau des pourcentages en vérité. Et même sur les temps de cuisson, les temps de repos de pâte,
Tout ça, c'est là où est la subtilité.
Secret de fabrication est là, très exceptionnellement.
On va le goûter de façon très exceptionnelle. C'est un produit qui n'existe pas. Puisque la pâte de Calisson, c'est les trois. Là, je vais vous faire goûter les deux. Juste amandes et fruits confits. Vous allez voir, moi j'adore.
Le produit n'existe pas, on est d'accord. D'ailleurs, vous n'avez rien entendu. Entre nous, j'adore aussi ce broyat d'amandes et de fruits confits. Le melon et les peaux d'agrumes, c'est fin, doux, un peu granuleux. Ce qui donne de la mâche, c'est trop bon. Le broyat, c'est Frédéric Sultana qui le prépare ce jour-là.
Bonjour.
Bonjour.
Je voudrais savoir, quel est votre métier ici?
Confiseur. Je fabrique des calissons, plus particulièrement la pâte de calisson. On va ressortir donc le broyat, le mettre ensuite dans le pétrin. Parallèlement à ça, on fait chauffer notre sucre. Quand il arrive à température, on va mélanger les deux. La pâte, à la fin de son cycle, sera cuite, prête. On la sortira et nous, on la met en bac. Au bout de plusieurs jours, parce qu'il faut un certain temps de macération pour le sucre, les façonneurs vont récupérer cette pâte et ils vont façonner les petits calissons.
Je me demandais si les conditions climatiques jouaient sur la pâte et devaient être prises en compte.
Au niveau des amandes, par exemple, rien que déjà la qualité de l'amande est très importante. Ensuite, on va avoir donc l'échaudage de l'amande, la température du sucre, le temps de chauffe, le temps de refroidissement, le temps joue aussi. Tous les jours, il va falloir jouer avec tous ces facteurs-là pour sortir une pâte la plus régulière possible. Moi, à l'origine, je suis pâtissier, en fait. C'est presque, on va dire, le hasard. J'ai voulu changer de, pas tout à fait de branche, parce que ça reste quand même de la confiserie. Et il y a une opportunité qui s'est ouverte ici, et ben, j'ai tenté, et puis voilà, ça m'a plu, et depuis, j'y suis.
On vous appelle comment alors? Calissonnier, pâtissier, calissonnier, confiseur?
Confiseur. Simplement, oui.
Et est-ce que vous allez du coup à la découverte des différents produits qui rentrent dans la composition de la pâte?
Alors moi, à titre personnel, j'ai vu déjà pour les fruits confits quand j'étais pâtissier. Après, au niveau des amandes, ça m'intéresserait de voir. Moi, j'ai jamais eu cette opportunité, mais pourquoi pas?
Pas encore.
Pas encore. Pourquoi pas? C'est un métier très complexe. On va rester sur un sujet que les amandes. D'une récolte à une autre, on va avoir une pâte différente. Tous les lots d'amandes qu'on fait rentrer, on va travailler différemment avec. C'est vraiment intéressant. C'est un casse-tête tous les jours, il faut bien l'avouer, mais c'est très intéressant. Moi, je le vois une fois que j'ouvre mon sac et que je vois en fonction de l'amande. Si elles sont plus sèches, même la couleur de l'amande, elle change. Et du coup, ça va avoir une influence.
C'est cette amande qui change de couleur, alors?
C'est surtout la teneur en eau de l'amande. Une amande plus claire, elle va avoir tendance à avoir moins d'eau, plus sèche. Du coup, il faudra la faire chauder un peu plus longtemps pour qu'elle reprenne son humidité. Parce qu'une amande, si elle est sèche, qu'on la broie, on va ressortir de l'huile. Et ça, on ne veut pas, nous. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est chaude. En fait. Déjà, au niveau du goût, les papilles elles sentent vraiment la différence entre une amande d'Espagnol et une amande provençale, voire une amande française, simplement. Hein. Elles ne sont pas plus amères, hein. Mais elles ont un goût, on va dire, plus fin. On sent qu'on mange une amande qu'une amande espagnole. Parfois, on va le chercher plus son goût d'amande, en fait. Il va être moins fort, en fait.
Mais on peut vous taxer de chauvin parce que votre accent vous trahit, quand même.
Oui, on pourrait dire ça. Mais non, en fait, une amande française, on sent vraiment la différence.
Vous aimez ça?
Tout à fait, oui. Enfant, je ne mangeais pas tant que ça. Mais maintenant, je découvre plus en profondeur le calisson, tous les petits détails qu'on ne voit pas. Et c'est un vrai plaisir, en réalité. Tous les jours, c'est une rigolade.
Mais oui, parce que vous goûtez la pâte et tout ça.
Tout à fait. En fait, comme un cuisinier qui va faire évoluer son produit pour essayer d'avoir toujours une certaine excellence, ben nous aussi, on va toucher notre broyat pour savoir s'il est plus sec, plus gras.
Texture en termes de...
Oui, pour savoir en fonction de comment on va ressortir notre pâte. Tous les jours, il faut toucher, il faut goûter, il faut... Si on veut sortir un truc régulier, il faut se lancer dedans, quoi.
C'est ah rigolant, oui, hein, parce que quand on est dans le sas, là, d'entrée, où on s'habille, on a d'un côté le nougat et d'un côté les calissons, et c'est deux parfums radicalement différents.
Ah, tout à fait.
Deux mondes, quoi.
Et après, ça dépend quel calisson on va travailler. Il y a des parfums qui vont ressortir plus, et à la limite, on va prendre surtout l'usine. Quand on fait le choco noisette, c'est tout l'usine qui sait que nous, au pétrin, on travaille du choco noisette. Ils sont tous au courant.
C'est bien, c'est cool.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Pour faire un calisson, de la pâte au repos, de la pâte au façonnage à la mise en boîte, il faut compter 5 jours et le travail de 20 personnes. C'est un bijou. Le cœur du savoir-faire réside dans le façonnage du calisson avec cette machine incroyable, comme un cylindre ailé, une abeille, la calissonneuse, qui donne au gâteau sa forme de sourire, de losange, 3 plateaux, la feuille d'hostie, la pâte, la glace royale, un pochoir de sourire.
Vous voyez les pistons qui sortent là?
Ah, magique!
Ouais, c'est assez magique ça. Parce qu'avant, on remplissait à la main toutes les alvéoles du moule, ouais. Et on extirpait chaque calisson ensuite à la main. Faut être très vigilant.
Parce qu'à regarder comme ça, on se dit c'est facile, mais en fait, faut pas laisser traîner un doigt quoi.
Exactement. Hein? Porte ouverte ici. Ouais. Allez, je vais vous montrer. Là, vous avez des picots qui expulsent les calissons. Pourquoi ils sont comme ça? C'est parce que là, ben, vous avez des dents. Hop. Et quand je les enlève, les calissons se posent dessus.
Dingue cette machine.
Une machine d'ailleurs inventée à l'école des arts et métiers d'Aix-en-Provence pour soulager les calissonniers qui s'abîmaient les mains en formant ces sourires.
Aussi, on fait de la qualité de noga le lundi entre 12h30 et...
Du coup, si on est aujourd'hui,
c'est
Béa qui vous fait la prof bénévole. Ouais, donc bon yoga. Merci.
Allez, je vais chercher. Alors moi, je suis Laure Pierre Isnard, je suis la directrice générale de la confiserie du Roi René.
Mon accent.
Mon accent provençal, vous voulez dire
un peu.
Ah ben moi je suis née à Manosque en Haute-Provence et j'avoue que l'accent je
oui, le calisson alors dans votre vie et l'amande.
Ben moi le calisson c'est mes premiers souvenirs d'enfance puisque en fait un calisson pour un provençal c'est un peu sa Madeleine de Proust. Le calisson fait partie des 13 desserts de Provence. Et donc pour un enfant, c'est vraiment le plaisir, la veille de Noël, de dresser les 13 desserts. Et moi, c'est ce que je faisais quand j'allais chez ma grand-mère et on y allait l'après-midi pour l'aider à dresser ses 13 desserts, à préparer le sapin, etc. Donc ça fait vraiment partie des plaisirs comme ça de l'enfance. C'est des moments de partage avec la famille. C'est vraiment sentimental, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'Aixois ou de Provençaux qui sont un peu expatriés, pour qui le calisson, ben oui, c'est un lien fort avec... un lien familial avant tout, un lien aussi avec sa région, c'est un peu une part du soleil provençal, enfin c'est beaucoup de choses le calisson finalement.
C'est le meilleur ambassadeur de la Provence, on a envie de dire, en oui, une bouchée de Provence.
Tout à fait, bon, on a la chance d'être dans une région, il y a énormément de beaux produits, l'huile d'olive en fait partie, le miel, etc. Mais je dirais que le calisson, il est assez unique, on le trouve qu'en Provence. Donc en fait, c'est vraiment un emblème de notre région. C'est une entreprise magique, déjà parce que c'est une entreprise qui a une histoire incroyable, avec des confiseurs et des salariés qui sont là depuis plus de 30 ans, même certains, on a fêté les départs à la retraite de calissonneuses qui avaient 43 ans de métier et de vie au Roi René, donc c'est incroyable. Et en même temps, il y a cette transmission auprès des jeunes, en fait, et c'est chouette. J'ai envie de vous raconter une anecdote. Pendant le confinement, on était très peu encore à travailler à la fabrique, et du coup, j'ai eu le plaisir aussi de faire des colis, justement, pour le web, notamment la veille de Pâques, où on était quand même assez chargé, on va dire. Et ce qui était très touchant, c'est justement que sur notre site, on a la possibilité de laisser une carte avec un message. Avec finalement ce service-là, on pouvait réunir en fait des familles qui étaient séparées. Et on avait des mots des grands-parents pour les petits-enfants, voilà, qui envoyaient des calissons ou des amandes chocolatées parce que cette année, exceptionnellement, ils ne pouvaient pas fêter Pâques en famille. Ou l'inverse, des grands-enfants qui envoyaient à leurs parents une boîte de calissons. Voilà, c'était un lien qui s'est fait. Et je dirais, c'est ça aussi qui est fort. C'est vrai que derrière la vente e-commerce, il y a quand même à une peu plus petite échelle ce lien qu'on peut faire aussi sur des moments comme ça, c'était très, très chouette.
Et quand une entreprise en Chine commence à vendre des calissons d'Aix, branle-bas de combat, les familles de Provence, qui n'avaient pas encore réussi complètement à s'entendre jusque-là, se sont assises autour d'une même table, ont établi un cahier des charges et demandé l'IGP, l'indication géographique protégée.
On n'a rien contre personne, mais si vous voulez, la seule chose, c'est ce qu'on a toujours dit, vous pouvez faire du calisson de Provence, du calisson de France, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais le calisson d'Aix, il a une histoire, il a une légende, il a le roi René, la légende du roi. Ça, on n'a pas le droit, ça.
Jean-Pierre Borelli, doyen des calissonniers, l'homme du sourire de la reine Jeanne.
Pourquoi dit-on de vous que vous êtes le doyen ?
Je le plus vieux, c'est tout. Fils de l'âge. Tous les calissonniers, René, comment dire,
Tosca. Il y a combien de maisons de calissons aujourd'hui ?
Vous êtes combien ?
Il y aurait une douzaine. Une grosse douzaine dans l'Union des fabricants du calisson d'Aix.
Alors qu'il faut savoir quand même qu'en 1945, Aix en Provence, ville de 45 000 habitants, petite ville, il y avait 45 fabricants.
45 fabricants ?
Alors, c'était surtout les pâtissiers et les confiseurs, on faisait tout. Moi, quand j'ai appris chez moi le métier.
Donc, qui vous a appris tout. Justement à
faire ça ? J'ai pas eu mon père. Mon père est mort, malheureusement. Je me suis retrouvé avec ma mère qui tenait le commerce. Moi, je voulais pas faire confiseur, c'était pas mon truc. Et puis, donc, les seuls au magasin. Et alors, j'ai même pas le CAP. Mais je revendique, si vous voulez, tout ce que j'ai fait toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai appris à faire les calissons à l'atelier.
Le savoir-faire.
Voilà. Alors, la seule chose que j'ai été obligé de trahir, c'était la recette de mon grand-père, qui étaient des calissons extraordinaires. Mon grand-père venait de l'Ardèche. Il a fait son apprentissage chez Arnaud Souberan à Montélimar. C'était un très bon pâtissier. Quand il est venu à Aix, formidable, faire les calissons. Donc, il avait acheté avec ma grand-mère un magasin. Ils ont commencé à faire des calissons. Et alors, lui était le seul à Aix à faire des calissons avec des amandes entières. Ce qui n'est pas interdit, puisque dans le texte qui est déposé d'ailleurs à la propriété industrielle, à l'INPI, il est bien dit que le calisson doit être fait à partir d'amandes. Des amandes brutes. Et alors là, c'est un bonheur. Parce que si vous voulez, c'est dans la peau qu'il y a toute l'essence de l'amande.
Le pacte de la calisson. Alors on se posait la question, ça c'est pour moi aussi ? Y a-t-il une chanson des calissons ?
Ah bah attendez, par Claude Lemel, celui qui a fait les chansons de tous les grands chanteurs. Bah bien sûr. Avec notre ami guitariste à Marseille, le menuet du calisson.
Le menuet du calisson.
Voilà, ben vous l'avez là.
Ben voilà.
Et puis alors là, vous voyez, alors ça c'est notre dernière trouvaille.
Marie-Madeleine Nexoise.
Elle est arrivée sur un calisson en Provence. C'est ma fille, le logo est déposé.
Très joli.
Et alors on a eu l'autorisation, alors ça si vous voulez c'est un peu prétentieux, c'est tout ce qu'on a fait pour arriver à ce qu'on fait et l'archevêque vient de nous donner son accord. Pour faire le
vœu. Ah oui, super.
Vu qu'il y a eu le vœu Martelli en 1630 pour la peste, maintenant qu'on a le coronavirus, pour qu'on fasse le vœu, le 5 septembre 21, qu'on fasse le vœu de Marie-Madeleine Nexoise, pour qu'elle nous débarrasse de la pandémie.
Comme c'était le cas pour la peste.
Voilà. Et alors en plus, on le fait évidemment à l'endroit où a été fait le fameux vœu Martelli, qui a permis de faire la bénédiction des calissons.
Mais moi, je ne connais pas, moi, le vœu des Martelli. Qu'est-ce que c'est que ça ? Racontez-moi.
Comment vous savez pas ça ?
Ben non, je ne sais pas.
Tout le monde connaît le vœu Martelli.
Eh ben non, pas moi.
Même en Amérique, les descendants, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Borelli, on va venir.
Bon, alors racontez-moi.
Oui, Hubert Martelli, c'est un assesseur du Parlement de Provence. Mm-hmm. Quand il y a eu l'épidémie de peste en 1630... Il a fait le vœu devant l'église de la Madeleine à Aix, sur la place des Prêcheurs, si vous connaissez Aix. Et on va demander, l'archevêque va demander officiellement à Marie-Madeleine de demander à la Vierge de la Cède, la patronne de la ville, sachant que Marie-Madeleine est la patronne des compagnons, et nous on a une confrérie des compagnons du calisson, et lui demander de bien vouloir intercéder auprès de ses amis là-haut pour que l'épidémie s'arrête.
Ouais.
Voilà, donc si vous voulez, c'est une jolie galéjade.
Oui,
voilà.
Mais il faudra attendre, enfin une galéjade pour les uns et un vœu pieux pour les autres.
Ah mais chez nous, c'est tout culturel et cultuel, parce que les deux sont liés. Et le fameux vœu Martelli, donc qui avait eu lieu en 1630, a été oublié des Aixois, si vous voulez, pendant 100 ans. C'est-à-dire, tant qu'il y a eu des épidémies, c'était un vœu perpétuel, et on renouvelait chaque année à la cathédrale. Les Aixois, les Marseillais venaient, c'était la grande fête. On avait été débarrassés de la peste, formidable. Mais jusqu'à début 1900, des épidémies, donc des vœux, et puis plus d'épidémies. La dernière, ça a été la grippe espagnole.
Oui, mais c'est ça, il y a un siècle.
C'était la dernière, 100 ans. Moi, j'avais la chance que mon père était un ami de Marcel Provence. Marcel Provence, qui était un fait libre et un écrivain aixois, qui avait fait un magnifique livre, Le Cours Mirabeau. Et dans Le Cours Mirabeau, il racontait que... lors des renouvellements du vœu Martelli, que l'archevêque distribuait des calissons. Et il avait fait ça pour faire plaisir à mon père, qui était calissonnier, ils avaient travaillé ensemble, bon, etc. Et donc, on a associé le calisson au vœu Martelli. Moi, on n'était pas au Roi-René, on était Borelli à l'époque, à la rue Cardinal. C'était mon grand-père. Mon père était conseiller municipal, président de l'office du tourisme. Ça a tellement eu du succès, cette bénédiction des calissons. On avait vu le curé à côté de chez moi du magasin en ville. Et il nous avait dit, ben oui, il n'y a pas de problème, pourquoi pas, on ferait la bénédiction des calissons, c'est bien. C'est... Alors, on fait ça la première année, 1500 personnes. Un succès formidable. Donc, l'année d'après, l'archevêque demande, mais c'est bien, ça ramène du monde à l'église, 1500 personnes, il faut refaire. La mairie, il y avait une élue extraordinaire, Madame Pivassé, à qui on doit le calisson, donc le patrimoine historique de la ville, patrimoine culturel et cultuel. Et Madame Pivassé, bon, elle m'a dit, Borelli, si vous croyez que les curés vont vous prêter l'église, vous rêvez. Elle m'a dit, si vous réussissez, vous avez tout ce que vous voulez. Eh bien, j'ai dit chiche. Alors, on a demandé au curé où on faisait la bénédiction, là, puisqu'on l'avait fait la première fois comme ça. C'était un buzz, c'était pas plus. Et il m'a dit, oui, mais Borelli, c'est gentil, ça, c'est très bien, mais là, il faut aller voir l'archevêque et lui demander l'autorisation, hein, il faut pas rêver. Chance, c'était le futur cardinal Billet, qui était primat des Gaules après, qui aurait dû finir à Rome, un homme extraordinaire, il était pas bavard comme moi. Je lui demande rendez-vous, il m'accorde 3 minutes. Il rentre dans son bureau à l'archevêché. Il me dit, Borelli, c'est vous qui avez organisé la bénédiction des calissons l'année dernière. Je dis, oui, monseigneur. Il me dit, Borelli, c'est ce qu'il faut faire. Allez-y. La seule chose qu'il ne faut pas dire à Jean-Pierre Borelli. Il m'a dit, l'Église s'est éloignée, nous nous sommes éloignés du peuple, il faut le rassembler. Ah bon, ben, allez, et ça fait 25 ans que ça dure.
Le calisson sera béni en septembre prochain, mais d'ici là, j'aimerais remercier très chaleureusement tous ceux qui m'ont fait découvrir ce bijou, Jean-Pierre Jobert et sa fille Pauline pour les amandes, Lionel Pellissier, Alphonse Pastor aux fruits confits, Frédéric Sultana, calissonnier et confiseur, Jean-Pierre Borelli, Laure Pierre Isnard, bien sûr, la présidente du Roi René, Magali, avec qui les premières idées ont été posées, et Alexis Bertuca, évidemment, son enthousiasme et sa ponctualité. Vous trouverez sur la page web photos et adresses pour découvrir la fabrique du Roi René, le musée du Calisson. Merci beaucoup à Cécile Bonissi qui a réalisé et mis en onde cette émission. Nous vous souhaitons toutes les deux de très bonnes fêtes. Nous serons là la semaine prochaine pour partager un repas pas tout à fait comme un autre. D'ici là, prenez bien soin de vous.
Alors, évidemment, on ne va pas parler non plus le calisson géant.
Ah,
Guinness des records. 206 kg, 850 000 personnes sur le cours Mirabeau.
C'est l'homme des records. Hein.